Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de mes collègues Hugues Gonneau et Vincent Aubé cette semaine.
Salut.
Qui a vécu de belles aventures au Jeep Jamboree.
Easter Jeep Safari.
Easter, merci de spécifier Vincent. Bon là évidemment, on va revenir forcément sur le salon de l'auto de New York. Il y a eu quelques dévoilements. On s'attendait peut-être à un peu plus de nouveautés, mais il y en a eu quelques-unes qui ont été significatives. Hugues, tu me fais plaisir cette semaine parce que on va parler de l'AMC Pacer.
Et oui.
Une voiture que je possède en
et
plus.
Et oui, je sais. J'ai dans pas fait exprès
tout,
du tout.
Dans toute sa splendeur et sa bruneté. On va parler de Volvo qui vit une belle ascension en ce moment sur le marché canadien. Et puis, bon, évidemment, ben, on va revenir sur des essais qu'on a réalisés. Vincent, ben, tu vas nous parler de véhicules concept parce que c'est assez rare qu'on puisse mettre à l'essai des véhicules concept, mais ça a été ton cas. Actualité, on parle évidemment des voitures qui ont été dévoilées à New York et je veux commencer forcément par le Nissan Kicks, qui est un véhicule d'importance pour Nissan qui bat de l'aile. On en avait déjà parlé. Nissan est en pente descendante. Les ventes ne vont pas très bien, même pour le Nissan Rogue qui est le véhicule à volume du constructeur. Ouais. Et ça prend un nouveau souffle. On sait que le Qashqai est disparu en 2024. Il reste encore quelques unités chez les concessionnaires en ce moment. D'ailleurs, on voit des pubs passer à gauche, à droite sur les réseaux sociaux de Qashqai invendus, mais c'est la fin pour le Qashqai. Et le Kicks se renouvelle cette année, mais devient essentiellement un Qashqai. On peut littéralement dire ça parce que on va exploiter non seulement plusieurs éléments techniques du Qashqai actuel, incluant son moteur, sa transmission, mais le Kicks gagne en volume et sera offert en version à traction ou à quatre roues motrices. Donc, essentiellement, on vient remplacer l'actuel Qashqai qui était vendu sous le nom de Rogue Sport aux États-Unis avec un Kicks qui, forcément, va coûter plus cher que le modèle actuel. Ça, c'est évident parce que pour mettre les gens dans le contexte, le Kicks actuel, c'est le véhicule d'entrée de gamme de Nissan, peut-être avec la Versa. Ce sont deux véhicules, d'ailleurs, qui partagent les mêmes éléments techniques, mécaniques et structuraux. Et on sait que la Versa, ça aussi, ça vit sur du temps emprunté. Alors, la Versa disparue, le Kicks actuel disparu, ben on lance le nouveau Kicks qui va arriver au début de l'été chez nous. Il y a une sacrée belle gueule. C'est très européen comme design. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Ça fait très Renault là, comme approche esthétique.
Quelle surprise!
Ah oui, c'est ça! Alors, tu sais, moi, je trouve qu'il y a une bouille sympathique. Finalement, ça fait un petit peu plus, je veux pas dire premium, mais ça fait un petit peu plus... Il y a des petits airs de mini Countryman qui me plaisent un petit peu là-dessus par rapport au Kicks actuel qui fait un peu bon marché, qui avait vieilli, ouais. Là, faut ouais. dire. Alors, ça va faire du bien chez Nissan. On a besoin d'un produit comme ça. Mais en même temps, pour un constructeur comme Nissan, un véhicule comme le Kicks, c'est important, mais c'est pas là qu'on va chercher du gros profit, là.
Non.
Alors, c'est
moi, mais c'est... peut-être que cette nouvelle motorisation puis cette montée en gamme va aider justement à faire augmenter un peu la marge de profit. On verra.
Ben, par rapport au Kicks actuel, c'est
oui.
certain.
Oui.
Mais en même temps, c'est pas une nouvelle motorisation. C'est le même vieux 2 litres qu'on utilise depuis longtemps chez Nissan, qu'on commercialisait en Europe aussi sur certains modèles. Alors, hâte de voir ce que ça donnera au niveau rendement, mais il n'y a pas de nouveauté technique très impressionnante. Là, c'est plus à l'intérieur qu'on a mis des gadgets un peu plus à jour. Forcément, on n'avait pas le choix.
Évidemment.
Nissan n'a pas dévoilé l'Armada, à ma grande surprise, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais on a dévoilé quand même l'Infiniti QX80, qui est important pour le marché américain, peut-être un peu moins pour nous.
Ouais, tu parlais de véhicules qui génèrent du profit.
Oui. On voit là, hein?
Ben, en fait, le QX80 de précédente génération en a généré énormément puisqu'on l'a vendu à l'échelle mondiale sous différentes nomenclatures et pendant quoi? 12-13 ans sans le changer.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est sûr que là, il commençait à être payant, mais ça prenait un véhicule qui consommait un petit peu moins que 20 litres au 100. Mettons que ça commençait à urger. Alors là, on arrive avec un V6 biturbo qui évidemment est une mécanique à jour, ce à quoi on s'attendait. Ça va être très intéressant comme véhicule dans le segment. Là, finalement, on sera compétitif avec les Escalade Navigator, surtout avec ce que Lexus vient de dévoiler tout récemment, le LX 600 qui est commercialisé depuis peu. Puis encore une fois, le Lexus LX, c'est pas un produit particulièrement important pour le marché canadien, mais non. Vous dire à quel point ça connaît du succès aux États-Unis, c'est incroyable. Mm-hmm. C'est un véhicule qui se compare beaucoup avec des Range Rover. Il y a beaucoup de ce que les Français appellent du cross-shopping, hein, Hugues? Alors, il y a beaucoup de magasinage mélangé entre les acheteurs de Land Rover et de VUS de luxe Lexus, aussi drôle que ça puisse paraître. Alors, est-ce que Infiniti réussira ce pari-là? L'image de marque bat de l'aile un peu, mais le produit semble franchement intéressant. Et puis, attendez-vous à ce que le Armada qui va être dévoilé d'ici quelques semaines, quelques mois, ben, ça soit exactement la même chose, mais avec une autre calandre.
Et puis avec moins de bébelles.
Avec moins de bébelles. Puis moins de chrome aussi.
Ben oui.
C'est toujours, ça va toujours de soi.
J'aime bien l'habitacle, par contre, du QX80.
Ah, oh, est magnifique. Magnifique. Non, non, pour ils ont fait leur devoir. Là-dessus, chapeau. Mais en même temps, tu sais, c'est encore un de ces produits plus fort que la marque elle-même. T'sais, moi, c'est toujours ce que j'ai dit du Lincoln Navigator, c'est que c'est un produit qui est plus fort, plus convaincant que la marque elle-même. Alors, quand c'est un produit qui porte la marque et non pas le contraire, c'est un sérieux problème. Hein. C'est
en là-dessus. Même temps, il faut commencer quelque part.
Oui, mais ça fait longtemps qu'on essaye de commencer. Là.
Ouais.
Ça fait longtemps. Ce qui n'est pas le cas de Genesis. Et là, on nous a pris par surprise chez Genesis. Vincent, t'as vu ce qu'on avait dévoilé.
Oui.
Parle-moi-en un peu, parce que honnêtement, c'est Genesis qui a raflé, qui a été la vedette du salon de New York. Là.
On va prendre la balle au bon. On parlait de gros VUS 3 rangées.
Ouais.
Le concept Néolune.
Oui. On me dit à l'oreille qu'on ne conservera pas ce nom-là.
Oui. Qui serait d'ailleurs inspiré par les porcelaines coréennes.
Oui.
Je ne sais pas si c'est très important.
D'où la raison pour laquelle on ne gardera pas ce nom-là.
Oui, voilà. Voilà.
mais un véhicule, bon, il faut deviner que ce produit-là utilisera les gènes du Kia EV9, de l'Ioniq 9 qui vont être dévoilés très prochainement.
Ioniq 7.
Qu'on dit vouloir rebaptiser Ioniq 9.
Ah.
Alors là, on verra pour la suite. Puis c'est pour ça que j'ai dit Ioniq 9, parce qu'on a annoncé récemment qu'on changeait le nom.
Ben, ça fait du sens, parce qu'on pourrait peut-être baptiser le Genesis GV90.
On verra. Mais,
on spécule.
C'est plus facile à dire que Néolune.
Oui.
Ça, c'est sûr. Mais toujours est-il que l'étude de style est vraiment réussie. L'habitacle est à couper le souffle sur ce produit-là.
Quoique un peu spatial.
Mais
ils en ont mis un peu trop, mais
c'est un véhicule tout bon concept.
Ouais, c'est vraiment un concept. On est pas très proche de la production encore.
Et comme si c'était pas assez, ben on a dévoilé la division de performance de Genesis au cours des prochaines années. Et oh, surprise, il n'y a pas de Lin dans le nom. Parce qu'on est bon pour avoir des R-Line, des S-Line, chez plusieurs constructeurs. Là, mais là, on est allé avec un nom qui s'appelle Magma. On a présenté différentes variations de produits habillés à la façon Magma. Donc, couleur orangée, couleur de lancement, mais avec un look beaucoup plus sportif que ce à quoi on nous a habitués jusqu'à maintenant.
Dont le concept GV60, qui a été présenté à New York pour la première fois, là,
ouais.
Qui est vraiment plus des ailes élargies, des jantes 21 pouces, très agressives.
Ah,
ça look, exactement. C'est très beau.
Alors, moi, j'ai toujours été un petit peu sceptique face à l'approche de Hyundai qui vous laisse la jouer sportive avec justement le N-Line et la lettre N. Mm-hmm. Je trouvais que sur le plan stratégique, c'était plus ou moins ça. Mais là, on a une idée.
Clever, le nom.
Ouais, je pense qu'on a une idée réussie.
Ça dit très, très bien ce que ça veut dire.
Voilà. Et pour aller se battre contre les divisions de performance ou les modèles de performance qu'on va retrouver chez Acura, bon, les types S, nommez-les. Là,
Audi, M.
Les M-Line, S-Line, AMG, Wannabe, là, parce qu'il y a de plus en plus de badges AMG sur des véhicules qui n'en méritent pas. Je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez bien. Fait que ça a été l'annonce de Genesis. Une belle surprise, mais qui n'en était pas nécessairement une, c'est la Kia K4. Ça se dit moyen bien en français, la K4, mais ça vient remplacer la Forte. Qui est la berline compacte de service depuis 2010, essentiellement, chez Kia. On l'a rebaptisé pour uniformiser les nomenclatures à l'échelle internationale, parce que c'est un nom qu'on utilisait déjà. Mais cette berline-là, qui me semble très volumineuse, d'ailleurs, on est loin d'une compacte, là, en ce qui me concerne.
En fait, sa job, c'est aussi de remplacer un petit peu ce que nous, on appelait l'Optima, mais qui est la K5 à l'échelle mondiale.
Ouais, donc,
elle a une double job.
Elle a une double job. En fait, on avait la K5 depuis quelques années, qui est disparue du marché pour 2024 chez Kia au Canada, mais qui demeure sur le marché américain, parce que chez nous, les intermédiaires ne se vendent plus. On aime mieux acheter des compacts qui sont en réalité des intermédiaires. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que quand tu stationnes une Elantra à côté d'une Sonata, tu te demandes vraiment laquelle est la plus volumineuse. Mais le marché est rendu là. C'est-à-dire que les berlines compacts sont de véritables intermédiaires aujourd'hui, ce qui fait en sorte que chez nous, Canada, ben, les intermédiaires deviennent, je ne veux pas dire impertinentes, parce qu'il y a encore de très, très bons produits convaincants dans ce segment-là. Je passe à l'Accord, à la Camry, à la Legacy qui va tirer sa révérence prochainement, mais qui est encore une voiture intéressante.
La Sonata même.
La Sonata, effectivement, qui adopte le 4 roues motrices cette année. Mais c'est un segment qui est en dégringolade, alors que les voitures compactes, ben là aussi, ça se vend moins que dans le passé, mais il y a encore du volume. T'sais, il y a encore un volume très intéressant. Et Kia, je pense qu'avec cette voiture-là, qui a un look, je dirais pas polarisant à la Hyundai Elantra, mais assez quand même audacieux.
C'est utilitaire.
C'est assez
agressif avant-arrière. Il y a une signature qui rappelle le V9 un peu derrière. Il y a même des bas de caisse noirs avec des contours d'ailes noires.
Ouais.
Alors regardez, là, c'est presque une berline outback. Là,
on joue, ouais, c'est ça.
Style réalisé par Karim Habib.
Oui.
Qui a grandi à Montréal.
OK, ouais. OK. Cette information-là m'avait échappé, mais en fait, quand j'ai regardé la voiture la première fois, je me suis demandé si c'était un haillon. Et semble-t-il que non, c'est une berline traditionnelle avec probablement une ouverture de coffre très réduite de par le design de la partie arrière. Mais on a aussi dévoilé une version hatchback qu'on n'a pas vue officiellement, qu'on a vue en sketch.
Oui.
Reste à savoir si ça va venir chez nous parce qu'il faut savoir qu'actuellement, la Forte 5 qui est vendue au Canada n'est pas offerte sur le marché américain. Alors, c'est une voiture qui nous est exclusive. Comment est-ce qu'on jouera cette prochaine génération-là? Assez intéressant de voir ça.
Alors que la K4 Hatchback a été confirmée aujourd'hui pour les États-Unis. Fait que c'est comme le monde à l'envers.
Oui, mais on ne sait pas encore si ça vient chez nous. On n'a pas eu la confirmation.
On verra.
Puis, je ne serais pas surpris qu'on nous dise « Ben, nous, on préfère mettre l'emphase sur le Seltos ».
Ce ne serait pas une énorme surprise.
Ne pleure pas, Hugues, c'est la réalité du marché automobile d'aujourd'hui. C'est comme ça. N'empêche, la version hatchback, elle est très belle. Côté mécanique, il n'y a pas de surprise. C'est le 2 litres 147 chevaux, là, le moteur nu qu'on a depuis très, très, très longtemps, qu'on a aussi dans l'Elantra. Donc, frugal et peu performant. Et pour ceux qui veulent en avoir un peu plus, moteur 1.6 turbo, mais qui cette fois est jumelé avec une automatique 8 et non pas une boîte double embrayage. Alors, ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Là.
Oui.
Bonne
nouvelle.
Mais pas de possibilité de boîte manuelle.
Dans ce segment-là,
on n'est pas étonné.
Il n'y a plus personne qui en achète.
Voilà. Hyundai, qui a dévoilé les Tucson et Santa Cruz 2025, évolution par rapport à ce qu'on connaît. Et la déception pour moi, c'est le fait qu'on continue au Canada de n'offrir que le moteur 2.5 turbo avec la boîte double embrayage dans le Santa Cruz, alors que les Américains ont droit à un moteur atmosphérique qui fait un travail pas mal plus intéressant en ce qui me concerne et qui permet d'en réduire la facture de façon considérable. C'est un peu comme si on n'avait pas le goût d'en vendre au Canada des Santa Cruz. Puis la vérité, c'est que c'est pas si populaire que ça.
Pas du tout.
Parce que c'est cher et parce que la motorisation est mal adaptée, tout simplement. Alors, je me serais attendu à ce qu'on arrive avec autre chose ou avec ce qu'on propose aux Américains depuis le début. Mais non, semble que Hyundai Canada n'est pas allé en ce sens-là.
Mais tu l'as dit, Antoine, c'est le prix. Puis face au Hyundai Santa Cruz, on a un Ford Maverick qui est beaucoup plus intéressant.
Oui, mais ça non plus, ils n'en ont pas.
Non,
va-t'en chez Ford demain matin, puis demande pour avoir un Maverick hybride.
Oui, bonne chance.
Est-ce qu'on peut vous proposer un F-150, monsieur?
Oui.
C'est ça. Mm-hmm. Bon, sur un autre ordre d'idée, on reste chez Hyundai. On a dévoilé le prix de l'Ioniq 5. Alors, on a entendu...
Ioniq 5 N.
Alors, on a entendu Gabriel nous vanter les mérites et les qualités dynamiques de cette voiture électrique. Puis moi, tu sais, bien que Gabriel m'ait semblé très enthousiaste à l'idée, moi, j'ai hâte de voir à quel point je vais avoir du plaisir au volant d'une voiture qui pèse plus de 2 tonnes puis qui est 100% électrique sur un circuit. Je ne sais pas comment jauger ça. Je ne sais pas à quel point cette voiture-là va m'impressionner. Mais je peux déjà dire qu'à 80 000 $ c'est non. 80 000 $ Bon, évidemment, non admissible aux subventions.
Non.
Parce que, ben, comme la Kia EV6 GT, en fait.
Comme la Mustang Mach-E GT.
Oui, ben là, elle est rendue, le Mach-E GT est rendu admissible parce qu'on n'arrête pas de baisser les prix.
Ah oui.
Écoute, là, on est à la veille de les donner. Si la tendance se maintient, d'après moi, on va vendre ça le prix des usagers dans pas longtemps parce que ça n'a pas de bon sens, la dégringolade. Mm-hmm. Je salue un ami personnel, André, qui, lui, a acheté un Mach-E GT au plus fort prix. Avait payé 92 000 $ pour son Mach-E GT. Doit encore 50 000 sur le véhicule. Alors, heureusement, il a déjà payé beaucoup sur le véhicule. Et il est au garage, le véhicule, au mois. C'est pas compliqué, là. Et là, il s'est tanné. Il est allé s'acheter cette semaine une V60 T8 hybride rechargeable pour remplacer le Mach-E parce qu'il était tanné. Et le concessionnaire Volvo lui offrait 26 500 $ pour son Mach-E.
Ouch!
Un modèle 2022. Alors ça a été payé plus de 90 000 $ et on lui offre 2 ans après à peine le quart de ce qu'il a payé. Ça s'appelle la dépréciation.
Oui.
Ça fait mal.
Sauvage.
Alors, ça a
c'est
été
plus
le
de la dépréciation.
Oui, sauvage. Brutal, ça, sauvage.
Pour un véhicule qui est toujours au garage en plus. Donc,
pour un véhicule qui est toujours utiliser. Au garage et qui est toujours au garage et duquel il est totalement insatisfait. Alors, ça a absolument aucun sens. Et moi, j'ai l'impression que ces bébites de performance-là qu'on essaie de nous vendre à très fort prix vont manger des volets au niveau dépréciation. Et même l'Ioniq 5N. Parce que l'Ioniq 5 est une voiture adulée, recherchée. Là, on commence à avoir de l'inventaire, cependant. Là. Mm-hmm. Mais même l'Ioniq 5N, selon moi, est une voiture qui n'attirera pas les foules et qui risque...
Je pense qu'il va y avoir des curieux. Les premières critiques en Europe ont été absolument dithyrambiques.
Ouais.
Je pense que des amateurs de golfer, de choses comme ça, à un moment, vont être poussés vers ça. Et puis...
Ça pèse 1000 livres de plus, là. C'est,
ouais, mais t'as
c'est...
641 chevaux.
Mm-hmm. Je comprends.
641 chevaux, là.
Avec un mode drift, alors, avec des sièges de performance,
avec des changements
rapport,
de vitesse.
Le rapport poids-puissance, t'as un torque, t'as un couple instantané, il y a tout, je veux dire. Regarde, je te dis pas que la voiture va se vendre comme des petits pains chauds, mais je pense qu'elle risque fortement d'avoir un petit cult following assez solide. Là.
J'ai très hâte de voir ce que ça va faire parce que, évidemment, on s'attendait à mers et mondes de la Taycan, par exemple, lorsque c'est arrivé. Puis il y a eu un petit engouement au début qui s'est rapidement effondré. L'e-tron GT n'a même pas eu droit à ça. Depuis jour 1, il n'y a pas d'intérêt. Là, tu vas me dire qu'on est dans un autre segment. Mais tout ce qui s'appelle électrique de performance, ça attire quelques rares enthousiastes.
Bah, de toute façon, Hyundai compte pas en vendre des millions non plus. Hein.
Non, je pense pas. Mais, non, non, mais on souhaite quand même en faire un halo car.
Oui, mais je pense que c'est ça qu'ils vont réussir à faire. C'est la preuve, on en parle, alors que c'est un modèle qui est quand même sur le marché depuis quelques années. Mm-hmm. Ils arrivent à faire un truc quand même. Ça fait de la belle image. Ça smoke les pneus comme ça se peut même pas.
Ouais.
C'est parfait pour eux, je veux dire. Puis bon, en même temps, ben, c'est...
Moi, j'aime beaucoup le contraste de dire « Ah oui, on roule électrique pour sauver la planète, mais on brûle des pneus à fond la caisse. » Ça, j'adore ça.
Mode drift.
Quand tu dis que les ingénieurs ont travaillé le mode drift pour que ce soit vraiment efficace... Là,
mais je pense que de toute façon, pour eux, c'est aussi de la R&D. Et c'est une façon d'amortir leur R&D parce que de toute façon, on s'en va vers... les systèmes électriques qui vont supporter des puissances plus importantes. Donc, c'est toute la gestion des flux d'énergie, des choses comme ça. Donc, sortir un véhicule comme ça, même en termes de R&D, de développement, ça a de l'intérêt. Mais je pense pas qu'Hyundai, effectivement, à 80 000 $, ils vont pas en stocker des milliers, hein, c'est sûr.
Non, c'est ça. BMW, de son côté, il y a quelques semaines, je vous ai parlé du nouveau X2 de la Mini Countryman 2025 que j'ai pu mettre à l'essai. Au moment de ces essais-là, de ces dévoilements-là, on nous avait présenté à huis clos le Vision Newer Class X, qui est dans le fond la prochaine génération de l'équivalent au X3, mais en 100% électrique chez BMW. On avait dévoilé l'édition berline l'an dernier, mm-hmm. qui est totalement réussie sur le plan esthétique. Je pense que c'est la même chose pour cependant VUS. Il faut s'attendre à ce que ce VUS-là arrive peut-être même un peu avant la berline. Évidemment, on nous a pas présenté de données techniques spécifiques, quelle sera l'autonomie, quelle est la taille de la batterie, bon, etc., etc. Mais l'étude de style vient montrer que BMW veut avoir une gamme de véhicules électrifiés dédiés et veut aussi conserver ce qui a fait leur succès depuis toujours, donc les séries 3, les séries 5, etc., et bien évidemment toute la gamme de VUS qu'on fabrique du côté de Spartanburg aux États-Unis. Alors, c'est pas parce qu'on lance des versions électrifiées que les modèles à essence vont disparaître. Au contraire, ces deux véhicules-là, ces deux technologies-là peuvent cohabiter. Oui. On veut faire cohabiter les technologies dans des voitures traditionnelles comme la série 3 en offrant de l'essence, du diesel, de l'hybride rechargeable, qui plus est peut-être du 100% électrique, mais on veut aussi avoir du 100% électrique dédié. Et ce concept-là qui nous a été dévoilé, honnêtement, au niveau de l'aménagement, au niveau des idées, au niveau du design d'ensemble, j'ai trouvé que c'était totalement réussi.
C'est en tout cas beaucoup mieux que les dernières horreurs que la marque a pu présenter, comme le BMW XM.
Et ils ont été assez humbles pour nous avouer, pour admettre que les designs qu'on avait présentés ces dernières années n'avaient pas fait l'unanimité et qu'on avait écouté, qu'on avait corrigé la situation.
Non,
et
puis en fait, c'est ils ont essayé d'aller en avant, ils ont sorti des trucs vraiment monstrueux. Et en fait, c'est en revenant en arrière, c'est en repuisant dans le passé, en recherchant des lignes simples, en revenant au basic qu'on fait le succès de la marque. Et tout d'un coup, les gens sont comme waouh, c'est super beau, ouais, mais ça, c'était c'est à peu près la même chose qu'il y a 60 ans. Ouais. 50, 60 ans, et ben voilà. Oui, c'était beau il y a 50 ans, donc il n'y a pas de miracle.
Tu sais, les plus belles séries 5, en ce qui me concerne, c'est ce qui a été commercialisé au début des années 90. Les séries 3, c'est peut-être la même chose aussi. C'était des voitures qui, à l'époque, étaient considérées peut-être comme audacieuses, mais qui, dans les faits, avaient des lignes toutes simples. Et on va se réinspirer aujourd'hui de ces voitures-là. La berline j'ai tellement de la misère avec ce nom-là. Là, c'est
qui ne restera pas, c'est à peu près ça.
Non, ça, c'est assez évident. Mais la berline, avec son museau inversé, s'inspire directement du type de design qu'on avait dans les années 80-90 chez BMW. Là.
Même dans les années 60, parce que c'est la Newer Class des années 60 qui sert de point de départ.
Ouais, ouais.
Donc là, c'est un petit patchwork d'inspiration des années 60, 80, ouais. 90. On revient à des trucs plus épurés, surtout, parce que si tu te souviens, le concept XM qui était sorti en 21 ou 22, il y avait des lignes partout. Ça partait dans tous les sens. C'était un festival. Et on savait plus où regarder. Et là, tu sors ces deux concepts-là et tu fais « Ah, voilà !»
Ben, ça fait du bien. Surtout que lorsqu'on regarde ce qui se passe du côté de chez Mercedes en électrique, où on a une belle gamme de toffee fondue au soleil.
C'est Jelly Bean qu'on appelle.
Oui, c'est ça.
Fortoris sort de ce châssis.
mais c'est tout sauf inspirant. Et même Mercedes l'a admis. Là, on va retourner à la table à dessin, puis on va éliminer.
Ah, c'est clair.
On va éliminer ça, les EQ, ES, nomme-les, parce que, premièrement, ça amorce la poussière dans la cour des concessionnaires.
C'est à travers le monde, pas la clientèle aussi.
Pas juste en Amérique du Nord, c'est à travers le monde.
Oui, c'est ça. Ouais. Ça connaît pas le succès escompté. Et c'est en grande partie en raison de ce design un peu insipide. Bon, aussi en raison des prix qui n'ont pas d'allure. Là. Tu peux pas demander 125 000 pour une EQE berline 53. Là, ouais. Peu importe. Là. Mm-hmm. Les prix n'ont aucun bon sens. Une berline EQE de base stationnée à côté d'une Tesla Model 3 n'a pas d'argument en sa faveur et coûte 35 000 $ de plus. Et là, on n'a pas mis d'option dedans.
Une autonomie inférieure.
Oui, c'est ça. Fait qu'on n'est absolument pas là. Très hâte de voir ce que BMW va proposer comme technologie, comme autonomie, comme puissance, comme rendement énergétique aussi. Mais j'ai l'impression qu'on a travaillé très fort à ce niveau-là.
Sixième génération du système e-drive.
Oui, exactement.
À suivre.